Quelle stratégie de lutte en République démocratique du Congo? C'est le thème choisi pour la troisième journée scientifique de lutte contre la drépanocytose tenue à Kinshasa. Pendant 7 heures, les médecins, spécialistes et les ONG de lutte contre la drépanocytose ainsi que les autorités du secteur de la santé ont réfléchi sur les voies et moyens pouvant atténuer l'expansion de cette maladie congénitale. Il en est de même pour la prise en charge des personnes anémiques en RDC. Pour faire face à cette maladie héréditaire, les participants se proposent de renforcer les stratégies de lutte contre la drépanocytose sur l'ensemble du territoire national. On en parle avec Gisèle Mandaïla en tant qu'ambassadrice pour la sensibilisation et formation à l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, OILB. Elle est notre invitée, on va la recevoir dans un instant. Mais d'abord, le point avec vous, Tati, puisque vous avez eu à vous pencher là-dessus. Qu'est-ce qui a motivé la Commission nationale de lutte contre la drépanocytose d'organiser une journée scientifique sur cette maladie?
En fait, Nicole, il faut dire que c'est tout simplement dans les buts d'inciter la communauté nationale à prendre conscience de la gravité de cette maladie congénitale et c'est aussi l'occasion pour les ONG de lutte contre la drépanocytose et autres scientifiques de réfléchir sur la prise en charge efficace des personnes qui vivent avec cette maladie.
Nous parlons de la drépanocytose, mais je crois qu'il est bon quand même d'éclairer la lanterne de nos auditeurs.
Tout à fait, Nicole. Selon nos sources, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges et du sang dans laquelle un enfant ne peut être contaminé que si ses deux parents sont transmetteurs, c'est-à-dire peut-être contaminé. C'est-à-dire porteur asymptomatique du gène de la drépanocytose. Donc, il faut retenir que c'est une maladie du sang transmise par les deux parents lorsqu'ils sont porteurs du gène DS. Par ailleurs, soulignons que c'est important de réfléchir sur cette maladie parce qu'elle a été reconnue en 2007 comme priorité en matière de santé publique par l'OMS et l'UNESCO. Les précisions avec Victor Makwenge, il est ministre national à la santé publique.
Drépanocytose, quelle stratégie de lutte pour la République démocratique du Congo? Thème est le thème de cette troisième journée autour duquel, pendant plus de 7 heures, nos échanges vont graviter. Ce choix pertinent a été voulu ainsi pour amener toute la communauté nationale à prendre conscience simultanément de la gravité de la maladie ainsi que de la nécessité d'une prise en charge efficace de celle-ci. En effet, à ce jour, il est prouvé par le monde scientifique que la drépanocytose ou anémie SF est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Environ 300 000 enfants naissent chaque année avec cette maladie à travers le monde, dont la majorité en Afrique subsaharienne. Notre pays, la République démocratique du Congo, compte à elle seule environ 80 000 nouveaux-nés drépanocytaires par an, dont 60 000 meurent avant d'avoir accompli leur cinquième année. Quant aux 20 000 autres, leur évolution qui est marquée par plusieurs épisodes de crise syndromique entraînant des handicaps physiques, psychiques et sociaux reste encore ignorée par l'absence de données statistiques et le manque de données statistiques et le manque de suivi.
Voilà, donc là, c'était Victor Makwenge en tant que ministre national à la santé publique. Nous excusons pour la qualité de ce son. Vous avez récupéré son témoignage à partir du haut-parleur lors de la manifestation, je crois. Mmh. Alors, peut-être pour évoluer sur la question, c'est vrai que la maladie, c'est une maladie scientifiquement approuvée au niveau mondial et aucun pays n'est épargné de cette maladie qu'on appelle drépanocytose ou encore SS. Mais est-ce que la population chinoise en particulier et congolaise en général croit à l'existence de cette maladie?
Nous n'avons pas de statistiques précises par rapport à votre préoccupation, Nicole, mais il faut la reconnaître que certaines personnes dans les pays du Sud, notamment en RDC, ne croient pas à l'existence de cette maladie. Celle-ci l'attribue souvent à la sorcellerie. Conséquence, certains de ces enfants sont rejetés par ces familles. En outre, la majorité des couples qui se marient dans notre pays ne se donnent pas la peine de faire les tests prénuptiaux, c'est-à-dire les tests avant le mariage, pour éviter les autres personnes qui ont des groupes sanguins susceptibles de concevoir des enfants anémiques. Suivant le témoignage de Monique Tumawaku, présidente de l'association Banamam, une ONG d'élite contre la drépanocytose.
Pourquoi Banamambre? Parce que lorsqu'on disait à une personne, tiens, elle est anémique, ou bien il est anémique, c'était un peu péjoratif. La personne se sentait, comme vous savez, l'anémie SS, enfin la drépanocytose, est une maladie universelle suite à de nombreux mariages mixtes. Et c'est une maladie qui touche n'importe quelle famille de n'importe quelle nous ne pouvons pas éradiquer l'anémie SS. Ça, il faut être réaliste. La population congolaise peut sensibiliser le monde entier en faisant les tests prénuptiaux, c'est-à-dire les tests avant le mariage, pour qu'il n'y ait plus de mariage entre AS et AS. Nous connaissons, nous faisons connaître davantage l'anémie SS à la population congolaise. Nous disons que l'anémie SS n'est pas une sorcellerie, c'est une maladie comme toute autre maladie. Donc, l'enfant anémique, c'est-à-dire le drépanocytaire, le sujet drépanocytaire, n'est pas un enfant sorcier, n'est pas un rebut de la société et ne doit pas être déconsidéré. Ça doit être une personne, dans l'association Banamombre, il y a des anémiques qui sont ingénieurs, électroniciens, qui sont avocats.
Voilà, donc nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays, hein, peut-être que vous souhaitez témoigner en tant que sujet drépanocytaire, peut-être que vous avez un cas à nous signaler, n'hésitez vraiment pas, faites-le au 081 070 20 50, nous en parlons en ce moment afin de trouver des solutions, toi tu m'as beaucoup et on va recevoir tout à l'heure nos invités, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux des personnes anémiques?
Selon les études menées par l'OMS, cette maladie touche 20 à 25% de la population mondiale, mais il faut savoir que les enquêtes menées dans certaines villes du pays font état des 5,4%, 10% et 11% des drépanocytoses contaminées par d'autres maladies telles que le VIH-SIDA, les paludismes et autres lors des différentes transfusions sanguines. C'est la raison pour laquelle, selon le ministère de la Santé publique, il est important de réfléchir sur les stratégies de lutte contre la drépanocytose ainsi que sur la prise en charge des malades à travers le pays. Suivant encore une fois de plus le ministre de la Santé publique sur cette question.
Le lien existant entre la drépanocytose et d'autres maladies telles que le VIH-SIDA, le paludisme et d'autres infections, les maladies carentielles, pour ne citer que celles-là, qui, dans certaines études menées dans trois villes du pays, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, ont montré respectivement le taux de 5,4%, 10% et 11% des drépanocytaires homozygotes polytransfusés contaminés. Il y a donc lieu de s'interpeller mutuellement sous la tension que nous devons accorder à cette pathologie. Face à cette situation, nul parmi nous ne peut rester indifférent et insensible. C'est dans cet ordre d'idée que le ministère de la Santé publique, se référant à la résolution 3 de la 117e session de l'OMS du 25 janvier 2006, s'est inscrit résolument dans le schéma de renforcement des stratégies de lutte à travers l'ensemble du territoire national. Dans ce schéma, la communication en vue de faire connaître la maladie, le dépistage en vue de limiter les mariages à risque et d'entreprendre la prise en charge précoce et correcte, la promotion de recherche et le partenariat pour la mobilisation des ressources occupent une place de premier ordre.
Oui, il est bon de se faire examiner avant de se marier, mais bon, est-ce qu'on peut refuser un couple de personnes qui s'aiment de se marier et d'avoir des enfants parce que tous les deux ont l'anémie SS?
Bon, en fait, c'est ce qui est difficile, Nicole, parce que bon, les gens, les couples, lorsqu'ils se connaissent, ils ne font pas généralement attention à ça. Donc,
ils ne font pas généralement attention à ça, mais de plus en plus
on le dit. Il est conseillé pour pouvoir s'examiner avant de pouvoir se marier.
Et l'examen s'appelle l'électrophorèse. Hein.
Voilà.
Alors, s'il faut à présent parler de la prise en charge des malades, il y a des hôpitaux qui prennent ça en charge des sujets drépanocytaires.
Tout à fait, Nicole. À Kinshasa, par exemple, nous pouvons prendre les cas de centres pilotes Mabanga, situé dans la commune de Kalamu. C'est d'ailleurs le centre le plus connu de la ville. Il y a aussi le centre pilote de Monkole, situé dans la commune de Mongafula, pour ne citer que ceux-là. Mais il faut savoir que l'accès aux soins médicaux réguliers est prioritaire aux moyens financiers et les coûts de soins médicaux n'est pas toujours à la portée de toutes les familles qui ont des enfants qui souffrent de cette maladie.
Ça coûte énormément cher, hein.
Ouais.
Mais dans les provinces, parce que vous n'avez pas cité les provinces, est-ce qu'il existe des centres de prise en charge de la drépanocytose?
Dans les provinces, c'est plus souvent les ONG de lutte contre la drépanocytose qui attirent les suivis médicaux de ces personnes. Mais il faut le reconnaître que des fois, ces ONG sont butées aux contraintes d'ordre financier pour faire fonctionner leurs activités. C'est l'état des centres de santé, grâce à la Fondation de Kangani, qui devrait fermer ses portes faute des moyens financiers pour payer les loyers. Les familles qui ont des enfants souffrant de drépanocytose ne savaient à quel fin se vouer. C'était le 21 août que nous avons diffusé ce reportage et nous vous prions de réécouter le témoignage de ses parents et des enfants qui souffrent de cette maladie.
Station qu'on a eu grâce à la Fondation et que si les soignants sont passés mingi, pour les acquis de place mingi, banini qui mingi baye baki, ce qui kaisa, baroyawana, pour soigner bana, mais elle tomoni, hôpitalisa souana, et que si les soucis, le bisco, banina, nous sommes sous bakongaïta, pour l'hôpital, nous sommes aidés à soigner banini qui était hospitalisa soua, cause à soussou, mais grâce à la Fondation, à te,
banini qui peut bazaba, tu peux aller gouverner, au type abisson de n'a été souffri na bana.
Donc là, c'était les témoignages des parents à qui sa mamie, hein, les parents qui se faisaient, dont les enfants se faisaient suivre dans le centre Gracia.
Fondation Gracia.
Oui. Mais aujourd'hui, bon, nous pensons que cette affaire a évolué parce qu'à l'époque, c'était un problème de loyer, raison pour laquelle le centre a dû
se permettre d'arrêter son activité.
Oui. Et finalement, il se retrouve aujourd'hui, je crois, propriétaire. Hein. On n'aura pas le suivi pour cette question-là pour vérifier ces informations. Alors on va s'arrêter là, hein, Tatima Poukou, afin de donner la parole à nos invités. Nous rappelons à tous ceux qui nous suivent à travers le pays qui peuvent intervenir au 081 070 20 50 avec des SMS, bien sûr. Et si vous souhaitez témoigner directement, alors là, il faut nous appeler à un autre numéro qui n'est autre que le 081 890 63 94. Tatima Poukou, merci beaucoup.
Merci, Nicole.
À la prochaine.
Merci.
Au Capi, active pour la paix. Gisèle Mandaïla, vous êtes notre invitée pour cette question concernant la lutte contre la drépanocytose. Et nous rappelons que nous vous recevons en tant qu'ambassadrice pour la sensibilisation et la formation à l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va s'étendre sur cette question. Vous avez suivi tout à l'heure les témoignages de quelques parents. Ce n'est pas facile lorsqu'on a des enfants qui souffrent d'anémie SS. Dans bien des cas, les centres où ces enfants se font suivre, où toutes ces personnes se font suivre, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors quelle est votre intervention ici à Kinshasa? Comment comptez-vous appuyer les centres de santé à travers la ville de Kinshasa et pourquoi pas également ailleurs au Congo?
Je voulais d'abord rappeler, dans un premier temps, en fait, le rôle de l'OILD et les objectifs de l'OILD. L'OILD, c'est une organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Et ses objectifs, c'est d'essayer de réduire, en fait, les taux de mortalité, par rapport aux enfants drépanocytaires et de pouvoir sensibiliser, en fait, les pouvoirs publics, les organisations, l'OMS. Donc, c'est un travail de l'OILD, c'est d'avoir sensibilisé l'OMS pour inscrire la drépanocytose comme la priorité des santé publique. Je crois que le plus important, c'est d'abord la sensibilisation des pouvoirs publics pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir dégager des moyens pour arriver, en fait, à une meilleure prise en charge des enfants drépanocytaires. Quant à savoir ce que l'OILD peut faire ici au Congo, je l'ai dit. Donc c'est vraiment, moi je suis ambassadrice pour la formation et la sensibilisation. Et dans un premier temps, on a compris, d'après les études qu'on a menées en France et ailleurs, c'est d'abord la sensibilisation par rapport à cette maladie qui est méconnue au niveau, je dirais même au niveau mondial, c'est pas seulement au niveau de la SIC, mais au niveau mondial. Donc la sensibilisation d'abord. Au terme de cette sensibilisation, cela nous permettra d'avoir peut-être deux moyens au niveau de l'OMS pour qu'on inscrive la drépanocytose comme priorité de santé publique. À partir de là, une fois qu'il y a cette inscription, l'OMS peut dégager éventuellement des financements par rapport au programme en fonction des pays dans le cadre des coopérations, que ce soit mixte ou coopération bilatérale ou multilatérale. Donc l'OMS peut dégager éventuellement des moyens, que ce soit au niveau des vaccinations ou alors peut-être une prise en charge totale ou partielle des enfants drépanocytaires. Donc le plus important, c'est d'abord la sensibilisation.
Oui, vous insistez beaucoup sur la sensibilisation, Gisèle Mandaïla. Vous avez l'impression que le ministère de la Santé ne prend pas suffisamment à cœur ce problème?
Non, je ne peux pas dire ça, parce qu'on a bien vu qu'on a, on a organisé la troisième journée scientifique de lutte contre la drépanocytose, donc c'est dire que le gouvernement, les ministères de la Santé prend la problématique à cœur, parce que c'est un programme qui a été déjà mis en place, je crois, si j'ai bonne mémoire, depuis 2000, et aujourd'hui, 8 ans après, il y a quand même eu des journées scientifiques, des sensibilisations par rapport à ça. Il y a un programme qui est créé, le programme national de lutte contre la drépanocytose, donc c'est dire vraiment que le ministère de la Santé publique...
Alors, le problème de la sensibilisation, c'est pas un problème sur lequel il faudrait beaucoup insister, c'est plus un problème de moyens.
Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Le ministère de la Santé, c'est sûr, connaît toutes les maladies qu'il y a, mais est-ce que c'était une priorité? Ben, peut-être pas, jusqu'en 2000, ce n'était pas une priorité, puisque le programme national de lutte contre la drépanose n'était mis en place qu'en 2000. Donc, depuis lors, je crois que c'est devenu une priorité, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème de moyens. Mais par rapport au problème de moyens, il ne faut pas éluder le problème de sensibilisation. Parce qu'il ne faut pas seulement sensibiliser les pouvoirs publics, parce que ça s'est fait, puisqu'il y a le programme, mais maintenant il faut sensibiliser aussi l'opinion publique, il faut sensibiliser les médecins généralistes, parce qu'il y a des spécialistes de la drépanocytose, mais les médecins généralistes, tout le monde ne connaît pas la drépanocytose. Donc un enfant peut présenter des crises, et bah, quand il arrive à l'hôpital, on a l'impression qu'il fait une crise de malaria simple, ou alors il a peut-être des problèmes d'articulation dus au froid, à la fièvre, mais alors que l'enfant et présente des symptômes de la drépanocytose. Donc c'est cette sensibilisation-là qu'il faut faire auprès des médecins, ce qu'on appelle les professionnels de santé, auprès des médias, pour qu'on puisse démystifier en fait cette maladie. Ce n'est pas une maladie de la sorcellerie, c'est une maladie génétique, et aussi auprès des malades et auprès de l'entourage.
Alors parlant de sensibilisation, vous allez organiser des séminaires, des formations pour les médecins?
Tout à fait, tout à fait. Mais pour revenir d'abord à la formation, je voudrais juste faire peut-être un clin d'œil au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Nous l'avons sensibilisé par rapport à la problématique de la drépanocytose, par rapport à la démystification de cette maladie au niveau de l'école, parce que je crois que cela doit commencer dès le bas âge et non pas attendre plus tard, parce qu'on a parlé de dépistage prénuptial. Donc je me dis, il faut d'abord le faire avant, et si chacun connaît sa carte électrophorique, donc à ce moment-là, la personne peut se dire, bon voilà, je suis là.
Souvent les parents sont maman enseigné à la naissance.
Non, mais contrairement à ce que vous pensez, non. Beaucoup de parents ne sont pas au courant que l'enfant peut présenter des symptômes ou peut être anémique et fait.
Quand l'enfant tombe souvent malade,
Les parents pensent
qu'ils finissent par comprendre.
Ils finissent par comprendre parce qu'après plusieurs consultations où le médecin généraliste lui dit l'enfant fait fièvre, on lui donne l'aspirine, ça se calme, l'enfant entre à la maison, on s'est dit bon, c'est un enfant, et puis il présente des crises au niveau des crises pneumoniques ou alors au niveau des infections. Donc à ce moment, on s'est dit il fait une bronchite, c'est une pneumonie.
Et puis il y a des symptômes qui ne trompent pas.
Mais ça, c'est après, quand il y a des gonflements. Mais il faut que la personne soit d'abord informée de cela. La personne n'est pas informée, il peut se dire mon enfant fait une crise et puis c'est fini. Et je l'amène à l'hôpital. Mais si les parents, les médecins, les infirmières sont informés, sont sensibilisés à ça, ben, ils vont directement détecter que non, c'est une crise de l'anémie SS. Donc on va diriger l'enfant vers le spécialiste et on va lui donner les médicaments appropriés.
Alors on revient en formation que vous avez organisée.
Oui, les formations que nous avons organisées à partir du premier trimestre 2009, on va organiser une série de formations avec les professionnels de santé, les médias, j'espère que Radio Capi sera présent pour et puis aussi les associations. Il faut quand même une meilleure prise en charge, il faut conscientiser la population, il faut aborder la question de la drépanocytose de manière à ce que les parents qui pour la première fois apprennent que l'enfant est drépanocytaire ne se retrouvent pas seuls et que ça ne soit pas une fatalité pour eux. Donc ce sont toutes cette série de sessions, des formations que nous allons organiser au premier trimestre 2009.
À Kinshasa,
au centre CFA de Mokolé.
Mais vous allez associer tout de même d'autres médecins, hein, pas seulement ceux qui évoluent à Kinshasa, mais également ceux qui évoluent en province.
Mais tout à fait, nous faisons la formation à Kinshasa, mais parce qu'il faut savoir que c'est à Kinshasa où il y a les deux meilleurs centres de formation par rapport à la drépanocytose, même au niveau de l'Afrique, parce que souvent on ne reconnaît pas, il y a des choses qui sont quand même au Congo, il faut le reconnaître. Entre les deux meilleurs centres, c'est pour ça qu'on a choisi Kinshasa, parce que c'est au centre. Et les médecins viendront d'ailleurs, les infirmiers aussi. Donc vous avez posé la question.
Vous avez déjà organisé, vous avez contacté qui de droit? Parce que bon, les craintes que nous avons, c'est que dans bien des cas, lorsqu'il y a ce genre de rencontre, on associe que ceux qui sont à Kinshasa et les autres évoluent en province.
Non,
ils ne sont pas, hein, ils sont pas concernés.
Non, mais je comprends tout à fait. La question a été soulevée lors de la journée. Le souci de l'OED, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde. C'est sensibiliser plus encore l'intérieur que Kinshasa, parce qu'il y a déjà des centres à Kinshasa et on en parle. Mais il faut sensibiliser les gens qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas peut-être la possibilité de pouvoir venir, qui peuvent organiser, s'organiser pour un accueil plus adapté par rapport aux enfants qui souffrent de la drépanocytose. Donc là, on va normalement contacter les différents centres, les différents ministres provinciaux de la RDC pour qu'ils puissent envoyer des médecins, des infirmiers spécialisés qui se spécialiseront en fait dans la lutte contre la drépanocytose. Donc la question a été posée au ministre de la Santé, parce que je me demandais comment est-ce qu'on allait faire, parce qu'il ne faut pas non plus venir empiéter sur le domaine de la RDC, et le ministre de la Santé m'a garanti que les ministres provinciaux seront avertis à temps, les gouverneurs des provinces, parce que je crois qu'il faut impliquer aussi le pouvoir public, les gouverneurs des provinces seront aussi sensibilisés, et j'espère qu'on aura un grand nombre de médecins de l'intérieur, des matériels et des médias pour pouvoir en parler.
Ce serait carrément anormal de retrouver des gouverneurs à cette rencontre, alors que la rencontre s'adresse beaucoup plus aux médecins qu'aux politiques. Hein.
Non, je pense pas que vous ferez la formation que nous allons faire, je l'ai bien dit, c'était pour les professionnels de santé, c'était pour les médias, et pour les associations. Les politiques, normalement, ne sont pas là, parce que ce sont des formations quand même scientifiques, mais je crois qu'il ne faut pas oublier, parce que finalement, c'est eux qui ont les moyens. Si les politiques ne suivent pas, en fait, le programme ou les actions de lutte contre la drépanocytose, on aura beau faire des sessions, mais tant qu'on n'a pas de moyens, on ne va pas avancer.
Oui, c'est des moyens.
Oui, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en RDC, on peut trouver des moyens. Les gouverneurs des provinces ont des moyens, peut-être limités, mais ils peuvent dégager une certaine marge budgétaire.
C'est pas facile à dire. Hein.
Non, c'est pas facile à dire. C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Et je peux vous le dire.
Ça n'a pas été budgétisé dans leur programme.
Oui, mais voilà. C'est pour cela qu'il faut sensibiliser. J'ai dit que c'est une question de volonté politique. À partir du moment où on sensibilise.
Il y a des priorités.
Et la drépanocytose, ce n'est pas une priorité.
L'OMS dit que c'est une priorité politique. Hein.
On n'impose pas aux priorités. L'OMS dit que c'est une priorité de santé publique. L'UNESCO dit que c'est une priorité de santé publique. On va se battre pour que, j'espère, quand on viendra en janvier, connaît déjà la résolution des Nations Unies, qui dira aussi que c'est une priorité de santé publique. Alors, je ne comprends pas à ce moment-là qu'un politique congolais dise que la drépanocytose n'est pas une priorité de santé publique. Ça peut toucher tout le monde. Et c'est une maladie qu'on peut réduire. On peut réduire le nombre d'anémiques SS, et aussi on peut prendre ça en charge. Je sais que ça coûte cher, mais on peut ensemble le faire. Si les politiques aujourd'hui me disent que non, alors moi en tant que politique je m'insurge et je trouve que c'est de l'irresponsabilité de la part des hommes politiques. Mais je suis sûre que les politiques congolais feront en sorte que cette maladie soit, qu'elle devienne une priorité pour eux.
On aura à voir ça le moment venu, en janvier 2009.
Non, on va mettre la formation. J'ai pas dit qu'ils vont dégager le moyen des moyens à ce moment-là. Nous allons les sensibiliser pour qu'eux aussi puissent dégager le moyen. On va sensibiliser le ministre de la Santé. Bon, on a bien vu que le programme national de lutte contre la drépanocytose s'est mis en route et le ministre va, avec certains de ses collègues au niveau bilatéral, faire ce qui est nécessaire pour qu'on dégage un peu plus de moyens pour cela.
Oui. Alors, vous savez, c'est tout à l'heure les témoignages de quelques parents, ça vous a peut-être surpris. Il y a un centre à Kisangani qui a dû fermer ses portes pour un problème de loyer.
Oui.
Et vous avez suivi les pleurs de la maman. Elle était habituée à aller là-bas, dans le centre avec son enfant. Et aujourd'hui, parce que le centre n'a pas de moyens, c'est une ONG, mais qui n'a pas de moyens, et arrêtons. À cause de ce problème de loyer.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est quand même c'est déplorable, c'est triste de voir que non seulement les centres doivent fermer ses portes et qu'on laisserait les familles des drépanocytaires comme ça un peu sur la route sans pouvoir les prendre en charge ou même pouvoir les orienter en cas de crise ou en cas de problème. Non, ça c'est vrai que c'est un problème qui doit en fait interpeller et ça doit nous interpeller en tant que politique. Je me dis, bon, ben, là aussi, quelque part, c'est pour ça que je reviens vers le politique. Les politiques, le gouverneur de la province, les ministre provincial de cette province ou d'ailleurs, doivent essayer de voir qu'est-ce que c'est que leur priorité par rapport à la santé. Donc ça, on peut l'inscrire dans le cadre de leur budget. Vous me dites, c'est un centre qui a fermé. C'est peut-être le seul centre qui était à Kisangani qui, en fait,
c'était le ONG. Hein?
Ben oui, mais c'est un centre. C'est un centre pour la drépanocytose, que ce soit ONG ou centre des santé par rapport au gouvernement. Donc ça reste un centre. Donc ce centre-là, à mon sens, vous devez bénéficier le plus que de la prise en charge du paiement de loyer. Parce que le reste, on dit qu'on les a chassés parce qu'il y avait un problème de loyer. Mais on n'a pas dit qu'il y avait peut-être d'autres problèmes. Je pense qu'il y en a eu d'autres. Mais ces problèmes de loyer, je crois qu'on aurait dû le prendre en charge. Heureusement, j'apprends qu'ils sont devenus propriétaires et que le centre a réouvert ses portes et puis on
continue pas, on ne sait pas encore si ce centre a pu
ouvrir ses portes. On va vérifier, j'espère en tout cas que les choses vont.
Mais juste une précision à votre niveau, c'est vrai que vous vous occupez plus de la sensibilisation et des formations, mais est-ce que vous n'appuyez pas certaines ONG qui évoluent dans ce domaine de drépanocytose?
Dans un premier temps, en fait, les objectifs de l'OED, ce n'était pas ça. C'était d'abord de travailler à la sensibilisation au plus haut niveau, donc Nations Unies, OMS, UNESCO, les pouvoirs publics de chaque pays pour d'abord reconnaître la maladie. Maintenant, en partie du moment où on a reconnu la maladie, nous allons passer au deuxième stade, c'est qui est la recherche des financements pour venir en appui aux associations et aux ONG, en tout cas aux centres de santé par rapport à la drépanocytose. Donc nous allons lancer ce que nous appelons les drépados en France et peut-être ailleurs pour essayer de trouver.
Ça viendra quand, les drépados?
Ben, on est en pour parler, pour voir un peu si les télévisions françaises peuvent nous aider, parce qu'il faut savoir qu'il y a le Téléthon qui parle un peu du cancer et tout, mais bon, la drépanocytose, ça touche une infime partie de la population en Europe, ça concerne plus les populations.
Plus en Afrique d'ailleurs.
Voilà, donc là aussi, il faut aller, mais je me dis maintenant que Kouchner vient de reconnaître la drépanocytose au soutien dans l'inscription de la résolution des Nations Unies,
oui.
Je crois que les choses vont aller et on va se battre pour ça. Pourquoi pas un drépado ici? Moi je dis, il ne faut pas nécessairement attendre que les organisations internationales apportent quelque chose. Je crois qu'au Congo, on peut faire des choses. Moi je vois, j'ai suivi hier par hasard, je crois que Kofi offre une jaguar aux parents de Cindy, et je me dis que Kofi ne pourrait pas aussi donner 10 000 dollars, 15 000 dollars à des associations qui s'occupent de la drépanocytose ou autre chose.
Peut-être qu'il a entendu votre
appel. Ben, j'espère, il n'y a pas que Kofi, mais je me dis, il y a pas mal de gens qui peuvent, je vois Didi Kinoani, des membres de gens qui sont intervenus. Et je me dis, ils peuvent participer quand même à des actions pareilles pour soulager un tant soit peu.
Et pourquoi pas Gisèle Mandaïla?
Et pourquoi pas Gisèle Mandaïla? Gisèle Mandaïla le fait dans le cadre de l'OILD. On va le faire en janvier. Quand on vient pour la formation, on ne viendra pas Marie. Donc voilà, donc ça fait une contribution que nous ferons.
Nous rappelons à tous ceux qui souhaitent intervenir, qui sont les bienvenus hein, au 0 80 1 0 70 20 50, avec des SMS. Si vous souhaitez intervenir directement, témoigner directement, vous êtes maman et vous avez un enfant qui est drépanocytaire, autrement dit qui souffre de l'anémie FS, témoignez donc au 0 81 890 63 94. Nous avons également une adresse email, c'est action@radiocapi.net. Docteur Louis-Marie Aïssi, vous nous avez rejoint dans cette émission en tant que médecin coordonnateur de PASO Bed, il est bon quand même de nous clarifier un tout petit peu. Passovède, ça veut dire quoi exactement?
C'est Passovède. Alors, la Passovède, c'est une plateforme qui a été initiée par le CEFA. Le CEFA, c'est le Centre de formation d'appui sanitaire. C'est un projet de l'UECD. L'UECD, c'est l'Institut européen de coopération et développement. C'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne et la coopération française. Et donc, il a comme objectif essentiellement d'améliorer les conditions médico-sociales du drépanocytaire. Nous faisons essentiellement le dépistage néonatal. Nous sommes actuellement à 31 000 cas dépistés de tous les enfants. Et parmi eux, il y a 1,5 plus ou moins qui sont drépanocytaires. Et puis, nous faisons la formation des médecins, la formation des infirmiers, aussi la formation des parents, des drépanocytaires.
Mm-hmm. Donc, vous également, vous êtes beaucoup plus orienté dans le domaine de la formation?
J'ai fait les deux. J'ai fait les dépistages, donc l'électrophorèse, l'isoélectrophopalisation et aussi j'ai fait la formation. C'est gratuitement, disons, c'est pas gratuit, c'est l'Union Européenne qui paye en fait. Je reviens.
Les parents qui viennent faire l'examen.
Ils ne payent rien.
Ils ne payent rien.
C'est ce que Mme Mandela venait dire tout à l'heure. Je crois qu'il faut un élan de solidarité aussi dans notre pays. Mm. C'est vrai que c'est un projet qui est financé. On peut penser qu'il est gratuit. En fait, il y a quelqu'un qui a mis la main à la poche et c'est l'Union Européenne, la coopération.
On peut savoir exactement où se situe ce centre?
Nous sommes à Mongafula, tout près du centre hospitalier Moncolé.
Tout près du centre hospitalier Moncolé, et le nom c'est?
Le projet c'est la PAFOVED, donc plateforme d'appui de formation de veille sur la drépanocytose.
C'est également le nom du centre. Hein?
Le centre c'est le CEFA, Centre de formation et d'appui sanitaire.
Alors aujourd'hui, juste par curiosité, on aimerait savoir, parce que c'est toujours bien d'informer les gens qui nous suivent, est-ce qu'il y a un bon nombre de gens quand même qui viennent se faire examiner, qui viennent ne plus que pour un examen d'électrophorèse?
Oui. Je pense qu'avec toute la sensibilisation qu'on a faite depuis bientôt 3 ans, il y a de plus en plus de gens qui viennent effectivement.
De plus en plus, ça peut faire combien par mois peut-être?
Ah, moi, je, oui. Bon, dans le sens où je suis, ce n'est pas un hôpital, donc c'est plutôt un centre de coordination, si vous voulez.
Mm.
Mais à l'hôpital, je pense que nous avons autour de 50 à 100 drépanocytaires par mois qui viennent pour consulter, pour leur suivi régulier.
Pour leur suivi régulier. Alors aujourd'hui, le combat qu'il y a à faire, c'est de limiter la progression, le nombre de cas. Est-ce que c'est possible? Parce que bon, ces gens qui sont drépanocytaires, ils n'ont pas cherché à l'être. C'est parce que les parents se sont mis ensemble, ils se sont mariés et ils ont eu un enfant. Et malheureusement pour eux, tous les deux étaient porteurs de l'anémie SS. Et c'est ça qui a donné la naissance à un enfant qui souffre de cette anémie. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de limiter cela? Limiter, ce serait interdire à tous ceux qui portent l'anémie S de vivre ensemble et d'avoir des enfants.
Oui, j'ai entendu tout à l'heure un témoignage de Madame Tomorakou, et elle a dit une chose qui est très sensée à mon sens, c'est que je pense qu'on ne peut pas éliminer cette maladie, ce serait illusoire de le faire, et en plus, à mon sens aussi, ce n'est pas normal de faire une loi, une sorte de loi pour dire que les AS et les AS ne doivent pas se marier, c'est absurde. C'est-à-dire on se marie quand on veut et avec qui on veut, mais ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens, et je pense qu'il faut commencer déjà très tôt. Déjà, peut-être que nous le faisons maintenant, mais après, il faut arriver au niveau des écoles, il faut expliquer aux enfants, effectivement, qu'il y a ce risque-là, et que s'ils se marient deux AS, ils peuvent avoir, ils ont 25% de chances d'avoir un enfant SS par grossesse. Mais faire une loi ou interdire, je pense que ça ne serait pas bien, d'autant plus que il y a beaucoup d'autres maladies aussi. Il y a des gens qui ont, parlons-en, le sida, par exemple, on ne va pas interdire quelqu'un qui a le sida de se marier. Il suffit d'éclairer les deux personnes et aussi
d'informer les deux personnes.
Oui, mais une information éclairée dans le sens qu'il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a après.
Et dès le bas âge. Hein.
Dès le bas âge, si possible. Mais par contre, faire une loi ou interdire, je pense que ce serait absurde. En plus, on n'a jamais fait nulle part dans le monde.
L'auteur, lui, Marie, a ici. En tout cas, on va s'arrêter là. C'est dommage. On aurait aimé aller au-delà. On en reparlera avec vous certainement en tant que médecin coordinateur de Pavoved. Hein, parce qu'il est toujours bon d'informer la population et notamment tous ceux qui nous suivent à travers le pays. Donc, on en reparlera. Madame Gisèle Mandaïla, on va également s'arrêter avec vous. Hein. Il y a beaucoup à dire. Vous êtes encore là à Kinshasa pour un long séjour?
Non, malheureusement, je repars demain.
Vous repartez déjà?
Je reviens au mois de novembre pour le suivi, en fait, pour la préparation de la formation avec le centre CEPHA et puis aussi pour toute la sensibilisation qu'on a déjà mis en place, soit au niveau du ministère, soit au niveau de partenaires qui veulent bien soutenir l'action.
On retient que cette rencontre est prévue à la formation, hein, elle est prévue au mois de janvier?
Non, au premier trimestre de 2009.
On n'a pas encore de précision. Voilà. Hein. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions et bon courage.
Merci à vous.